Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir notre ami et confrère Claude Boschurberg, auteur de l'ouvrage « Fulgurance d'ombre et de lumière » avec une préface de Serge Klarsfeld parue aux éditions Inédit. Bonsoir Claude.
Bonsoir Sandrine.
Serge Klarsfeld écrit de toi « Claude Boschurberg est le Balzac de la tragédie humaine de la Shoah en France et les survivants de cette Shoah lui doivent une infinie reconnaissance ». Cette phrase figure dans la préface de ton livre qui restera comme une forme de biographie écrite par celui qui a été pour toi un compagnon de route, une référence intellectuelle et morale et une figure essentielle de ton cheminement. Qu'est-ce que cette reconnaissance, par ces mots, t'inspire ?
Évidemment, ça m'inspire une émotion considérable. Je dois dire, en toute confidence, parce que j'espère que personne nous écoute, mais je dois dire que quand j'ai lu cette préface, les larmes me sont venues, très naturellement, parce que, en fait, il y a, comment dirais-je, une telle chaleur dans ses propos et en même temps, ce que je ressentais comme une telle estime, voire une reconnaissance, que vraiment, ça m'a bouleversé, dans la mesure où, effectivement, comme tu le dis, ma rencontre avec lui date, on peut dire, de l'apparition du mémorial des déportés juifs de France, donc 1978, et trois ans après, j'entrais, je dirais, dans le militantisme, non seulement avec lui sur le terrain, mais également à travers, et Actualité juive, bien sûr, et à travers Radio Shalom. Donc, en fait, c'est effectivement un compagnon, mais surtout un maître en histoire, un maître en mémoire, un maître en éthique. On le verra plus tard quand nous nous retrouverons à l'Institut Elie Wiesel, où j'en parlerai. Pour moi, ce couple-là, c'est un couple qui est passé à la légende, qui est un couple avec une dimension véritablement infinie.
Alors l'actualité qui nous vaut ta présence ici parmi nous, c'est la parution de ce livre, Fulgurance d'ombre et de lumière, aux éditions Inédit. C'est sans doute ton livre le plus personnel. Je pense que j'ai lu quasiment tous tes livres, et là vraiment il y a autre chose. Le livre restitue des instants de vie, saisis comme par touches successives, associés à des couleurs, bleu nuit, rouge pourpre, vert intense, jaune orangé, un véritable kaléidoscope de la mémoire, des fragments, des éclats, des gens, des lieux, des dates, des étapes, qui composent une autobiographie non linéaire, faite de réminiscences, de sensations, de fulgurances.
Oui.
Comme un kaléidoscope réfléchissant à l'infini la lumière, la mémoire s'y diffracte en une multitude de fragments, des plus clairs aux plus sombres. Orphelin de la Shoah, fils de déporté, tu explores ce que tu appelles les traces permanentes de l'infini au cœur du fini, dans un voyage intérieur où la mémoire familiale, l'histoire collective et la vie présente se répondent sans cesse. Je dois te dire que résumer ton livre n'est pas une chose aisée, le style est vraiment particulier. Alors la question que je voulais te poser, comment toi tu le qualifierais, comment tu l'as pensé ce livre ?
Alors effectivement, c'est pas facile parce que en fait c'est un rassemblement de fulgurances, c'est-à-dire comme tous les êtres humains, il y a comme ça des scènes, il y a comme ça des images, des réminiscences qui nous habitent, et en fait, je dirais qu'elles viennent, mais elles viennent dans la temporalité présente. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je prends un exemple. Je prends un exemple dans le livre, c'est que mes enfants, mon fils aîné, mes petits-enfants, ont quitté la France, donc il y a une vingtaine d'années. Je suis extrêmement malheureux, il faut le dire. Pour moi, cette séparation est vraiment comme une sorte de blessure, quoi, compte tenu... de ce qui nous incombe à nous les orphelins de la Shoah, c'est-à-dire qu'on souffre d'une certaine un certain syndrome que j'appelle l'abandonnite d'une certaine manière, bon je ne veux pas épiloguer, mais ce que je veux dire c'est que dans la temporalité de l'époque je suis à Paris 5 par exemple, à l'université où je suis donc en étude d'un cursus en psychosomatique avec une accréditation clinique, enfin peu importe, et à ce moment-là la fulgurance, c'est de se dire, oui, il y a quelque chose qui, en fait, me fait du mal, mais en même temps, si je m'encroute dans une temporalité passée, je vais finalement être encrouté dans un présent, qui va éviter de me faire avancer. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est que, En réalité, nous sommes habités effectivement par des réminiscences, par des fulgurances, par, comme tu l'as dit, des fragments. Et en même temps, je dirais, ils sont vivants dans la mesure où, en fait, ils sont réactualisés par le présent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça peut aller effectivement dans tous les sens. Parce que notre psychisme est en évolution permanente. Et en fait, le vivant, c'est quoi ? C'est que les entrées sont à la fois dans le passé, dans le présent, dans le futur. À telle enseigne, qui suis formé quand même à la psychanalyse, c'est qu'on dit que l'inconscient n'a pas d'histoire.
À t'écouter, ça me fait penser à quelque chose que je n'avais pas vu.
Oui.
C'est la lecture biblique.
Oui.
Je pense à Toldot, l'engendrement des générations, ce passé qui préfigure le présent, le futur, pour revenir au passé. Et en fait, le temps est cyclique.
C'est
un éternel recommencement.
C'est exactement ça. Et l'intelligence, précisément, de la tradition juive, c'est de donner au terme Toldot le terme d'engendrement. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est une histoire qui nous dépasse parce que précisément, les enfants vont devenir à leur tour parents, etc. Et que là, on est dans une temporalité future. Et c'est pour ça que notre tradition est si belle, puisque, en fait, comme tu le sais très bien, qu'est-ce que c'est qu'un juif ? C'est un ivri, c'est-à-dire celui qui passe. On est dans la mobilité, on est dans la fluidité. Razak !
Alors, que représentent pour toi ces couleurs qui structurent les différents chapitres ?
Alors, ces couleurs, je l'ai vu avec mon éditrice, que je salue au passage, parce que c'est vraiment une éditrice remarquable, qui fait vraiment un très beau travail. Et l'idée, c'était de donner à ces fulgurances, en réalité, un kaléidoscope de couleurs qui nous permettait, le jaune-orangé, etc., de donner comme une sorte de coloration avec effectivement quelque chose qui ne peut pas se dire en mots, en vérité, mais qui colle à notre être. Parce que, je ne sais pas, j'invente quelque chose à l'instant. Si toutefois, je pense à quelque chose d'heureux, je vois un ciel bleu azur, quoi. Je ne vois pas un ciel plombé, un ciel gris. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, j'ai une explication peut-être inconsciente, mais je te la donnerai
avec plaisir.
Tout à l'heure.
Oui.
Donc, ce livre évoque plusieurs fulgurances,
oui.
et notamment le bonheur de la vie de famille, et
oui.
puis cette absence oui. irréductible qui oui. est l'assassinat de ton père en 1944.
Oui.
Avec le temps, il y a ce bonheur qu'on ressent qui est profond, mais
oui.
est-ce qu'il permet d'apprivoiser une telle blessure ?
Alors, est-ce que le temps permet d'apprivoiser une telle blessure ? Je dirais que oui, dans la mesure où la chance que nous avons eue, nous, les orphelins de la Shoah, autour des Klarsfeld, c'est précisément de nous être rassemblés en famille, en quelque sorte, une famille de lutte, et tu le sais bien, puisque tu appartiens aussi à une famille, c'est qu'en réalité, sur le terrain, en abordant, je dirais, frontalement la mémoire, l'histoire, on a exorcisé beaucoup de choses. Et puis, comme le dit Serge, il dit ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que nous étions heureux. Et c'est vrai, heureux en famille. Et puis surtout, le bonheur, l'extrême bonheur, c'est le fait de voir qu'en réalité, après ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire la coupure en amont avec un père, une mère, etc., en réalité, la vie a continué. Et l'émotion, c'était précisément de comprendre, d'observer que ceux qui avaient disparu dans de telles conditions atroces, eh bien, il y avait une descendance. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui bouleverse. Moi, ça m'a véritablement bouleversé.
Et on le ressent en lisant. Il
oui.
y a une expression, une jolie expression
oui.
que tu tiens de ta grand-mère. Alors,
ouais.
je vais la dire
ah,
très
oui.
mal.
Ah oui, c'est bien que
ouais.
tu aies pointé ça.
Mekaye in der Bein,
ouais.
c'est ces moments de joie qui
ouais.
pénètrent jusqu'aux
c'est
os.
Ça, c'est ça.
Et que,
ouais.
et que tu ressens,
ah,
vraiment.
Oui, mais c'est bien que tu aies vu ça. C'est du charnel. Ça se passe à l'île Maurice, voilà. Bon, mon fils est né deux jumeaux, voilà, Ruben et Lorraine. Et je revois la scène. Il y a un petit magalo, on est allongé, et ils sont tout petits, et ils sont à califourchon sur moi. Et là, à ce moment-là, la fulgurance, c'est quoi ? C'est que ma grand-mère, qui était donc d'origine ukrainienne, qui était venue d'Odessa en 1907 à Paris, qui parlait yiddish, bien sûr, elle avait cette expression pour dire « Amachai in de Beiner », ça veut dire un plaisir qui va jusqu'aux os, c'est presque intraduisible, c'est un plaisir immense, quoi. Quand on parle de la réunion en famille avec les petits-enfants, on dit « Amachai ». Bon, Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est ça. C'est exactement ce que je ressens comme elle le ressentait, elle. C'est un petit truc, mais ça a fonctionné, quoi. Donc, j'ai eu envie de le coucher sur le papier.
Alors, tu en as parlé il y a un instant, reviens à plusieurs reprises. Cet arrachement, c'est le départ de ton fils aîné Lionel, de ta belle-fille, de tes petits-enfants, les jumeaux, pour la Californie.
Oui.
Est-ce que tu y vois, inconsciemment ou inconsciemment, une sorte d'écho à l'arrachement de ton père? Tu étais bébé quand ton père t'a quitté.
2 ans.
Oui. Est-ce que plus que d'autres, quand on est un enfant de victime de la Shoah, eh bien, on redoute les séparations familiales?
Alors,
tu as parlé de ce syndrome de l'abandonite.
Oui,
il touche tous ces enfants qui ont grandi.
Tu touches au cœur, ce qui n'est pas une maladie.
Hein. Oui.
c'est quelque chose qui est une sensibilité. C'est le fait que, je le dis haut et clair, je ne supporte pas les séparations. Je ne les supporte pas. C'est-à-dire que, d'abord là, c'était une séparation sur la distance géographique. Mais même les petites choses, c'est-à-dire se dire au revoir, parce que, en fait, se séparer, c'est pour des gens comme de ma catégorie, si je puis dire, c'est déjà un vide, c'est une béance. Et je crois que, en fait, c'est la force de l'histoire qui s'est incrustée d'une certaine manière. Attention, j'en suis pas réduit à être devenu un psychotique, mais je dois dire que d'un côté, alors c'est là, et d'abord je tiens à te féliciter parce que je vois que tu as fait une belle et vraie lecture, c'est que cette séparation, elle est assez complexe. C'est à la fois une souffrance, mais en même temps, je dirais, ça permet aussi de se retrouver avec ceux qui sont partis d'une autre façon et quelquefois plus proche encore. C'est un peu délicat à expliquer. Mais en même temps, je dirais que la distance a fait, avec le temps, un rapprochement encore peut-être plus intime. C'est comme ça que je ressens les choses.
On se connaît depuis de nombreuses années, pas tant que ça, mais quand même.
Oui.
J'ai lu, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de tes livres, et là, je découvre une autre facette de toi qui m'a beaucoup touchée.
Oui.
C'est cette grande sensibilité, cette proximité avec tes proches.
Oui.
Et en fait, j'ai l'impression que tu incarnes à merveille le Yiddish papé. Est-ce qu'on te l'a déjà dit?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis plus que tout, presque une mère juive aussi, dans la mesure où, effectivement... Mais quand je dis ça, je voudrais éviter le jeu. Parce que le jeu, il est un petit peu inconvenant. Quand j'ai dit jeu... Je représente en quelque sorte d'une manière paradigmatique ce qui relève, je dirais, de mes compagnons d'une certaine manière qui ont été privés effectivement de cette affection en amont avec la perte d'un parent dans des conditions abominables. Et là, en réalité, on a quelque chose qui est un surcroît d'affectivité, mais en même temps, à la différence, par exemple, des enfants qui ont eu leurs parents rentrés d'Auschwitz. En réalité, nous, les fils et filles des déportés juifs de France autour des Klarsfeld, même avec, je dirais, cette coupure en amont, on s'est quand même reconstitué avec beaucoup de force à cause de la lutte. Voilà.
En fait, tout est une histoire de famille.
Oui.
Et je vais lire un passage aussi qui m'a émue et peut-être qui est une sorte de modèle pour nous parents.
Oui.
Tu écris « Je suis un père heureux, on l'aura compris, car le lien avec eux est là, vivant, matinée d'étrangeté et d'intimité tout à la fois. En ce sens, je fais mienne les paroles de Lévinas dans Le temps et l'autre, la paternité et la relation avec un étranger qui, tout en étant autrui et moi, la relation du moi avec un moi-même qui est cependant étranger à moi. La paternité n'est pas une sympathie par laquelle je peux me mettre à la place du fils, c'est par mon être que je suis mon fils et non par la sympathie.
Oui,
et là, on a une définition du tikkun, de la réparation.
Exactement, la réparation du tikkun. Et en même temps, je dirais, ce que tu viens de lire, c'est magnifique. Parce que, encore une fois, c'est des paroles tellement pleines, c'est que ce sont des paroles d'espérance. C'est-à-dire que, en fait, le bonheur que nous avons, mettre au monde un être qui est une émanation de nous, mais en même temps étrangère. Parce que, en fait, Et on sait que, par exemple, dans la cérémonie du Pidyon Aben, c'est-à-dire là où, en fait, l'enfant va être, le premier fils va être racheté par le Cohen, en réalité, c'est une manière de dire, attention, les enfants ne sont pas notre propriété. Ce sont des êtres, comment dirais-je, qui, en fait, vont voler de leurs propres ailes en pleine liberté. Et donc, bon, ben voilà, c'est magnifique. Et tu sais, tu le sais très très bien, on se connaît depuis longtemps, effectivement, combien Lévinas m'est cher. Dans cet ouvrage, je confie que moi qui prends le métro tous les jours, ligne numéro 9, je ne pars jamais sans un ouvrage. Et la plupart du temps, c'est les ouvrages de Lévinas qui reviennent.
Alors, on va y revenir.
Toi qui es une spécialiste de Lévinas.
On va y revenir dans un instant. Voilà. Alors, il y a les familles et puis il y a ces fulgurances ou peut-être des étincelles où tu racontes des petits épisodes que tu as traversés, notamment ton rapport complexe à l'Allemagne, un rapport partagé de nombreux descendants de victimes de la Shoah et dont je fais partie. Oui. Cette réticence à entendre parler une langue, à être sur ce territoire. Et pourtant, tu l'as surmonté grâce à deux personnes, Beat Klarsfeld et Vladimir Jankélévitch.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter ce cheminement?
Écoute, c'est vrai. J'avais à telle enseigne que, comme tu viens très bien de le dire, ne serait-ce qu'entendre la langue allemande, ça me hérissait. Bon. Et puis, effectivement, ma rencontre avec les Klarsfeld va changer beaucoup de choses. D'abord, Béatrice allemande. Qui fait lien avec Serge, lui fils d'un, comme on le sait, d'un déporté d'Auschwitz, et elle fils aussi d'un soldat dans l'armée allemande, bien qu'il n'ait pas trempé dans le nazisme, c'est autre chose, mais il s'avère que en réalité c'est un personnage tellement incroyable avec une dimension telle que en réalité déjà ça me donnait une autre ouverture, mais en réalité moi qui suis depuis longtemps les écrits aussi de Jankélévitch, en fait, était hérissé également, non seulement par la langue, mais je dirais par les textes, etc. Il a toujours été réticent, voire complètement opposé à tout rapport avec l'Allemagne. Et puis, le miracle. Parce qu'il y a des miracles aussi. C'est que, vers la fin de sa vie, il y a un jeune étudiant qui lui écrit et qui demande à le voir. Et en réalité, alors là encore, on va faire un lien entre Lévinas et Jankélévitch, parce que Lévinas nous dit une chose, et je reviens sur ce maître ouvrage écrit en 1947, qui s'appelle « Le temps et l'autre ». Le temps défini non pas comme l'horloge, mais en réalité comme la proximité de l'autre qui va procurer ce qu'on appelle un élargissement de l'existence. Et Jankélévitch se trouve avec ce jeune homme, et paf, on retrouve Lévinas, parce que son existence, au lieu d'être abougrie, elle va prendre une véritable résonance. Et là, ça change tout. Parce qu'il dit, je vous accueille. Et à ce moment-là, il y a comme une sorte de conversion qui se fait. Et en fait, notre vie, c'est ça. C'est-à-dire, tu le sais très très bien, c'est que les rencontres changent tout. Les rencontres. Alors, Beat, ça change tout. Jankélévitch, bien sûr, ça change tout. Et puis, notre voyage en Allemagne. Parce que là, à ce moment-là, d'un mot, je dis, mais oui, l'Allemagne a fait un énorme travail pour promouvoir, la mémoire du génocide. Il faut voir ce qui s'est passé en Allemagne. Évidemment, ça peut s'expliquer par une sorte de culpabilité diffuse, etc. Mais n'empêche que si on va à Berlin, etc., c'est plein de musées juifs, etc., qui fait qu'il y a eu un travail énorme sur la mémoire en Allemagne.
Et dans ce travail de mémoire, dans cette étape de ton parcours, il y a une date fondatrice.
Oui.
Qui est 1978, la publication du mémorial de la déportation des Juifs de France par Serge Klarsfeld.
Oui.
Et tu écris, je te cite,
«
Tout était dit dans ce livre mémorial à la résonance tragique. La mort était identifiée, le crime était dénoncé à jamais par le réquisitoire de la simple énumération des noms des déportés et de leur itinéraire. Mon père était nommé.
»
Est-ce que c'est à partir de ce moment précis que ton travail de deuil a commencé?
C'est un travail de deuil, je ne sais pas trop si on peut parler d'un travail de deuil.
D'acceptation du deuil.
Mais c'est une date fondatrice, dans la mesure où dans les familles on savait sans trop savoir. Là, on ouvre le livre et je me reporte à la page du 15 mai 1944. Et là, il y a tout le décryptage de ce qui se passe. C'est-à-dire, pour la première fois, j'apprends qu'effectivement, ce qu'on voit, elle va être séparée en deux, la moitié en Estonie, l'autre moitié en Lituanie, etc., et qu'en réalité, se met en place quelque chose qui était un peu méconnu et qui fait qu'à ce moment-là, quand ça devient clair, eh bien, ça change aussi les choses. Et puis, c'est la date fondatrice, en quelque sorte, de mon engagement avec eux. Pas actif tout de suite, mais dans les 2 ans qui suivent. Parce que je suis encore en cours d'études, etc.
Alors, tu rappelles des points qui démontrent que la réalité est toujours plus complexe, oui, plus nuancée qu'on ne peut l'imaginer, et c'est l'arrestation de ton père.
Oui.
Alors, ce que je ne savais pas, alors je savais, oui, que c'était à Marseille,
oui,
c'est par des miliciens corses,
oui,
qu'il a été arrêté.
C'est ça.
Et souvent, on associe la Corse, oui, ou les Corses à des philosémites, oui, à, oui, des justes, oui, et finalement,
oui,
c'est
des
pas toujours le
des
cas.
Des crapules, il y en a partout. Mais en tous les cas, ça ne veut pas dire pour autant que tous les Corses sont antisémites ou ont trempé dans le nazisme autrefois. Là, c'était comment dire, des gangsters corses qui étaient donc au service de la Gestapo. Et en fait, mon père travaillait à ce moment-là dans un magasin, et ils sont venus en fait parce que en réalité, ils étaient sur la trace du patron du magasin. Et mon père était là, il savait que bon, le patron était absent ou peut-être dans un endroit du magasin, enfin peu importe. Et à ce moment-là, il demande à mon père, mais on vient chercher Monsieur X. Et il dit, ben non, il n'est pas là, mais et vous, qui êtes-vous? Et là, le drame, parce que c'est la tragédie, c'est que ce matin-là, il avait changé de veste, me raconte ma mère, et que dans cette mauvaise veste, si je puis dire, il y avait aussi la mauvaise carte où était tamponné le fameux tampon juif, quoi. Et donc, à ce moment-là, il a été évidemment emmené. Et puis après, c'est l'itinéraire. D'abord, il a essayé de s'échapper, mais il a été rattrapé. Il s'est retrouvé au Baumettes, et puis là, Drancy. Et donc, le 15 mai 1944, s'envole vers les Pays-Baltes, si je puis dire. Donc, 878 hommes dans la force de l'âge qui pensent partir pour travailler pour l'organisation Todd, et qui, en fait, vont se retrouver, encore une fois, à la fois en Estonie et en Lituanie. Et on va faire ce voyage sur leurs traces en 1993 avec Larsfeld. Et on va se retrouver donc en Lituanie, à Kaunas, au Fort Neuf. Kaunas, qui était la ville de Lévinas, comme tu sais, dans ce fort terrible où les hommes étaient fusillés dans la cour, quoi. Et sur le mur d'une des grandes cellules de ce fort, on retrouve l'inscription « Nous sommes 900 Français ». Et je suis avec quelqu'un que tu as connu aussi, un militant magnifique, qui était Jacques Toros, qui découvre le nom de son frère sur le mur de la cellule. C'est quelque chose, là, tu vois, fulgurance, au moment où je te parle, je revois encore la scène, et je revois au moment où nous sortons du fort, on est là, un petit groupe de descendants, il y a un rabbin de la communauté qui vient à notre rencontre. Il va mettre son doigt comme ça, tout autour, sur la plaine, et il va nous dire, avant de faire le kaddish, vous voyez, cette terre-là, elle est imprégnée de sang juif. Ça m'habite encore, ça. Imprégnée de sang juif. Voilà.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Claude Bauchurbert, qui nous parle de ces fulgurances d'ombre et de lumière parues aux éditions Zinédier. Tu évoques, et c'est ton expression, l'imprévu heureux, cette,
oui,
capacité à accueillir le charme du hasard,
oui,
alors même que l'être humain préfère souvent le contrôle,
oui,
parce qu'il rassure.
Oui.
Est-ce que cette notion infuse ta vie? Est-ce qu'elle est une notion importante pour toi?
Elle infuse ma vie, je dirais, en permanence. Parce que loin de penser que je suis un homme ravagé, je dirais, par un passé qui me rendrait triste, mais c'est exactement le contraire qui se passe. Je trouve que, et du reste, dans cet ouvrage, je rends hommage à quelqu'un qui nous a quittés, mais Edda Maillet, avec laquelle j'étais tellement en symbiose, parce que quand je l'ai connue et qu'elle ouvre la porte de mon cabinet, et la première chose qu'elle me dit, elle vit déjà dans une maison de retraite à Rothschild, elle est en fin de vie, elle est perclue d'arthrose, et elle me dit, si vous saviez ce que je suis heureuse de vivre. Et c'est incroyable d'entendre ça. Et en même temps, je suis tellement stupéfait que pendant un an, je suis allé la filmer. Ça fait un beau film, ce qui s'appelle Edda Maillet, Le Chaim à la vie. Mais pourquoi je fais ce lien avec elle, parce que, et la symbiose c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de grandes choses. Toutes petites choses, les petites choses de la vie, les rencontres, les imprévus, les occasions au sens de Yankelevitch, mais c'est toujours un bonheur d'exister, quoi. Je dirais que, bon, nous comme juifs, je dirais, c'est pas un hasard. C'est la première parole qu'on prononce le matin au réveil, Modé Ani, merci mon Dieu d'être là, quoi. On pourrait ne pas y être. C'est le bonheur de vivre, voilà.
Alors, tu parles d'Eda et je voulais citer ce qu'elle t'a dit pendant le tournage.
Oui.
Je te cite. Elle déclara à plusieurs reprises que le seul fait de vivre, se sentir exister, y compris dans les moments difficiles, était en soi une grâce.
Oui.
Que rien ne pouvait se comparer au cadeau d'être de ce monde, qu'il nous fallait nous montrer plein de gratitude, car c'était une chance inouïe d'être vivant sur cette terre, bien vivant malgré nos misères, alors que l'on pouvait appartenir au néant et ne plus voir la couleur du ciel, entendre le chant des oiseaux et jouir de la proximité conviviale des frères humains que nous étions tous. Et là, je rebondis par rapport à ces couleurs.
Mais bien sûr.
Et à ce kaléidoscope.
Mais c'est exactement
ça. Peut-être qu'inconsciemment, c'est ça aussi qui a pu t'inspirer.
Mais bien sûr. Je crois que tu as bien choisi les extraits, parce que là, c'est un plaidoyer pour cette vie qui est belle, malgré les vicissitudes. Mais en réalité, et notre force, veux-tu que je te dise, toi qui es aussi, je dirais, dans le combat pour la mémoire et, je dirais, la transmission, c'est qu'en réalité, nous sommes là, quoi. Nous sommes là, debout, nous sommes là, vivants, la nuque raide, comme on dit, et puis il peut se passer tout ce qui se passe, mais la flamme juive, elle sera là de toute éternité. On ne peut pas nous abattre.
C'est impossible. Alors, tu disais tout à l'heure que tu lisais quotidiennement dans le métro tes auteurs privilégiés. Oui. Il y a des philosophes, des psychanalystes, mais pas de romans.
Non, c'est vrai.
Et ça fait penser à Lévinas, parce que Lévinas non plus n'aimait pas trop les romans.
Alors, c'est très peu... il m'est arrivé des romans, je ne sais pas moi... Des ouvrages qui m'ont marqué, comme toi aussi, Schwarzbach, Le Dernier des Justes, etc. Mais non, mon goût, c'est pour ce que je vais puiser dans les essais de toute nature, mais surtout, j'ai une nourriture qui me porte, qui est une nourriture philosophique. Mes auteurs préférés, les Lévinas, les Yankelevitch, même mon ami Wachnin, bien sûr, et puis Comte Sponville. Ils sont nombreux. J'ai eu la chance, que je te dise aussi, j'ai eu la chance dans ma pratique d'ostéopathe, psychosomaticien, d'être beaucoup en lien avec des grands philosophes que je ne peux pas nommer, par secret professionnel. Mais en même temps, je dirais que c'est un goût pour moi, dans la mesure où, en fait, ça me porte. C'est-à-dire que dans le métro, j'ai un rituel. Quand j'ai une place assise, maintenant ça devient un peu de plus en plus rare, évidemment, mais quand même, crayon. Et puis, j'ai beau relire le même livre, je suis dans les pas de l'analyse de l'auteur. Je reviens, je dirais, dans son cheminement. Et en même temps, il y a toujours une petite porte ouverte avec quelque chose de nouveau. Et puis, on souligne, on fait une petite réflexion dans la marque. C'est un travail. On ne lit pas Lévinas ou Yankelevitch comme ça. Non, c'est un travail. Et en réalité, revenir sur les pas de cette analyse, ça permet à ce moment-là de faire marcher le cerveau, quoi, je veux dire. ça nous maintient vivants aussi. Ça fait partie du bonheur de vivre. Voilà, du bonheur de vivre.
Alors, on arrive à la fin de cette émission.
Ah, quel dommage.
Et puis, on arrive aussi à cette dernière de couverture avec une courte présentation.
Oui.
Où ce qui est frappant, c'est que tu restes présenté, malgré une vie familiale comblée, comme un orphelin de la Shoah. Est-ce qu'on peut un jour cesser de l'être ?
Alors, cesser de l'être, c'est un petit peu difficile, parce qu'en réalité, on appartient à une histoire. Mais en réalité, je peux dire aussi que, en fait, et toute la teneur de cette émission le montre, c'est que d'une certaine façon, il ne faut pas devenir un être rivé à son malheur, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, la chance, c'est précisément quand on a eu le bonheur d'être entouré familialement, même sur le plan du compagnonnage, d'avoir d'avoir eu le sentiment aussi d'être un petit peu utile, et puis de savourer chaque petit moment de cette vie, quoi, cette belle vie, en réalité, ça, on le dépasse, on le transcende, comme on dit. C'est-à-dire qu'en réalité, allez, je ne veux pas jouer à Cyrulnik, mais parce que c'est devenu une tarte à la crème de dire la résilience, mais il y a quelque chose d'une, comment dirais-je, d'une, j'aime beaucoup ce terme, d'une excédence de vie. Un appétit de vivre qui nous met en excédence de vie, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, quoi. Parce qu'en réalité, cette vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue, quoi. Et je suis très touché par notre entretien, parce que, en fait, pour un auteur, le fait d'être entendu, le fait d'être compris, ça permet, je dirais, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de donner une épaisseur, un élargissement à son existence. Et j'ai, pendant ces 30 minutes, mon existence a été élargie grâce à toi, Sandrine.
Alors, voilà. Une dernière question, oui, qui est classique et traditionnelle dans cette, oui, émission. Si, en une ou deux phrases, et c'est difficile, hein, oui, tu devais donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom, de lire ton livre, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je leur dirais, ouvrez le livre et vous allez partir en voyage avec moi. Un voyage dans la fraternité, tout simplement, parce que, en fait, la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est de donner de son être aux autres, et avec la chance peut-être d'être payé en retour, et peut-être que cette lecture-là, elle me fera des nouveaux amis. Voilà.
Merci beaucoup, c'est Claude, voilà, d'avoir accepté de partager tes fulgurances d'ombre et de lumière parues aux éditions Inédits aujourd'hui, oui, avec nous. C'est un livre que je recommande vivement, parce que même si ce sont tes étincelles de, oui, vie à toi, elles ont un écho dans nos quotidiens, oui, quel que soit le parcours qu'on ait traversé. Le livre est de mémoire, de, oui, vie, de transmission, de sensibilité, et il touche par sa justesse et sa profondeur. Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt.